spécialiste dans la drogue. J'ai peur de finir à la morgue. Un briquet et la cigarette se grille. Elle me brise la tête de vie. Si j'arrête de rire, c'est que je suis mi-fou, mi-triste. Ni clou, ni riche. J'irai passer un max avec un ni clou, ni vice. J'aime les petits loups qui disent, mais ton petit coup de bibine. Les rip ou mi-rite, mais mon six coups tient vite. Bah, discolaire, banal, pas bipolaire. Comme le papa, mais envers l'autorité brûlée en moi, une vive colère. Donc si j'opère au mic envers et à travers les rimes, c'est pour t'en faire, c'est pour qu'en fait respirer dans l'enfer des villes.
A ce temps je marche avec les vrais. Les autres j'en balance. Quitte à en payer les frais. Je vous laisse une longueur d'avance. Sans enterrer les faits. Je préfère me sentir délaissé. Me dire tant pis tout est baisé. Qu'attendre que le compteur s'avance. Rien dans les profondeurs l'absence. Note ça que d'anorceur et des potes sous. Qui rêvent de crever l'abcès. Qui n'ont pas de sous. Alors tous les soirs c'est pas de sauce. Et les bières fortes qui m'escortent quand j'ai froid. Pas la 33 export. Ni ceux qui tapent des tas de pauses. Même si en vrai chacun ses choix. Mes vieux tout pousse. Ça joue les robins des bois. Leurs textes sont un fort tout pour tous. Alors me parlez pas. Qu'on fait la guerre à l'état. Quand on prend la guerre à l'état. C'est qu'on est dans un sale état. Des bonbons de la kétamine. Des bobos de la bétadine. Si t'es con-con.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès. Faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Et bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est le lundi 25 mars, il est 19h04 et vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi. On commence tout de suite par les titres.
À l'international, on écoutera des nouvelles bien attendues de la Palestine.
Et puis au national, on parlera de procès de plusieurs policiers en région parisienne. On reviendra sur Sainte-Soline, puisque c'est le triste anniversaire de Sainte-Soline l'année dernière. On enchaînera avec un point sur les politiques austéritaires menées par Bruno Le Maire et le gouvernement. Et on terminera par un point sur le CETA qui a été rejeté au Sénat.
Et on finira notre émission avec d'abord un interview avec un collège, avec un enseignant au collège de Villeurbanne, avant d'écouter un reportage sur le mouvement des enseignants-enseignantes à Saint-Denis dans le 93.
Mais on commence tout de suite par les brèves. Et pour la deuxième semaine consécutive, on vous parle de Rodolphe Saadé, l'armateur marseillais qui devrait racheter la branche média d'Altice, donc BFM TV et RMC. Le rachat devrait avoir lieu cet été. Alors pour rappel, le milliardaire est déjà propriétaire de La Provence, Corse Matin et de La Tribune. On le disait la semaine dernière, ce rachat ne nous semble pas très bon signe pour la liberté de la presse, eh bien Saadé n'aura pas mis bien longtemps pour nous donner raison, puisque ce vendredi 22 mars, le directeur de la rédaction de La Provence a été mis à pied pour avoir égratigné Emmanuel Macron. Alors en cause, la une du journal de la veille qui titrait « Il est parti et nous, on est toujours là ». En référence au coup d'éclat médiatique de Macron venu faire son show à Marseille autour d'un grand coup de filet lié au trafic de drogue. Donc Aurélien Vierre, le directeur de la rédaction, a été réintégré hier suite à l'appel à la grève illimitée des journalistes du titre. La concurrence de Bolloré est bien en marche.
Et puis les Verts ont de l'humour en Auvergne-Rhône-Alpes puisque depuis mercredi dernier, ils ont officiellement lancé un observatoire du wokisme. Wokisme, W-A-U-Q-U-I-S-M-E, Scrabble. Comprenez donc un observatoire de la politique menée par Laurent Wauquiez, président de la région. L'objectif est d'analyser le développement d'une nouvelle idéologie de droite qui se rapproche de l'extrême droite, de récolter des faits et toutes les décisions qui tendent vers une obsession sécuritaire et les abandons des projets pédagogiques et de soutien à l'agriculture biologique. Une bonne blague et peut-être une affaire à suivre.
La solidarité internationaliste un peu efficace, ça existe. La preuve, mercredi dernier, deux usines d'armement produisant des composants pour les avions de combat israéliens ont été bloquées en Angleterre et en Écosse par plusieurs centaines de travailleurs et de travailleuses de ces usines. Alors il y avait GE Aviation System à Cheltenham et Leonardo Yukai pardon, à Édimbourg. Ils et elles ont réussi à interrompre le trafic pendant 24 heures en bloquant les entrées et la production. Le mot d'ordre était très clair, embargo sur les armes et fin de la complicité du gouvernement britannique dans les crimes de guerre d'Israël. C'est une belle preuve de solidarité internationale. Il y en a déjà eu d'autres en Europe. On espère que ces actions vont se multiplier.
Et toujours au Royaume-Uni, les juges de la Haute Cour de Londres rendront demain leur décision à Julian Assange pour déterminer s'il aura droit ou non à un dernier recours contre son extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks est poursuivi pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, dévoilant ainsi les pratiques criminelles de l'Empire américain. Son avocat estime qu'Assange est poursuivi pour des pratiques journalistiques ordinaires consistant à obtenir et publier des informations. En janvier 2021, la justice britannique avait initialement tranché en faveur d'Assange, qui avait évité ainsi l'extradition. Mais cette décision de justice a ensuite été infirmée. En cas de défaite demain, Julian Assange pourrait saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans l'espoir de faire suspendre l'extradition. Il risque 175 ans de prison aux États-Unis.
Et après ces bien belles brèves, on passe tout de suite à l'actualité
internationale.
Avec un petit point sur la Palestine.
Oui, on écoute un point fait par le collectif Palestine 69 qui nous parle de la situation là-bas.
Donc un petit point militaire de ce qui se passe à Gaza et puis en dehors, en Cisjordanie, dans la mer Rouge et au sud Liban. Il y a une intensification évidemment depuis un moment des échanges militaires entre le Hezbollah et l'armée israélienne au sud Liban et au nord des territoires occupés de Palestine. En moyenne, le Hezbollah mène une dizaine d'opérations minimum militaires par jour qui va de la destruction d'un drone au ciblage de regroupements de soldats sionistes, au ciblage de camps et bases militaires. Dans la mer Rouge, le mouvement de Sarala du Yémen allait élargir aussi ses opérations militaires, non plus seulement au détroit de Bab el-Mandeb, mais également dans l'océan Indien. Qui plus est, elle a aussi annoncé cibler maintenant les bateaux chypriotes pour sanctionner Chypre de laisser en libre service son espace aérien ainsi que ses bases militaires aériennes aux Anglais et aux Américains. Il faut savoir que les opérations d'Ansarala sont prêtes à s'arrêter à la minute où il y aura un cessez-le-feu. Donc ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, Le meilleur moyen pour les Américains et pour les Anglais de mettre fin au blocus qu'impose le Yémen aux navires américains, anglais et israéliens dans la mer Rouge, c'est pas de bombarder le pays qui est déjà le pays arabe le plus pauvre au monde, mais tout simplement de commencer à voter les résolutions de cessez-le-feu. Après, à Gaza, a priori, des sources militaires et même des nombreux médias israéliens dont Can News ou Haaretz, malgré les efforts de l'armée israélienne, ils contrôleraient actuellement aucun point de Gaza, même le nord.
La police civile a repris du terrain, a remis son nez même dans les affaires et dans l'ordre civil au nord de Gaza. La résistance armée est toujours présente. Elle a envoyé hier, ça faisait depuis le 13 janvier qu'il n'y avait pas eu d'attaque sur la colonie Ashdod depuis Gaza, de lancement de roquettes. Il y en a eu aujourd'hui, ce qui montre que la résistance armée est encore largement capable à tout moment et depuis n'importe où sur Gaza d'attaquer avec ses roquettes. Et sinon, fait très marquant, c'est aussi l'intensification des échanges armés en Cisjordanie. Alors il y a l'exemple incroyable du Palestinien proche de Ramallah dans un petit village qui a combattu les soldats sionistes pendant plus de 7 heures il y a 2 jours tout seul proche de son village en occupant le terrain en dos de colline, en occupant le terrain avec une efficacité incroyable. Il a tenu tête pendant 7 heures aux drones, aux hélicoptères et aux soldats sionistes. Et au bout de 7 heures d'opération, ils ont finalement réussi à le localiser et à le tuer avec des missiles. Il y a aussi les brigades armées de Jénine qui ont mené une grosse opération là, qui a fait énormément parler, qui a été énormément célébrée en Cisjordanie, qui a tué en une seule attaque 4 soldats sionistes qui étaient dans une voiture civile. Le niveau humain, il est toujours aussi catastrophique. Hein. Je crois qu'on est à presque 33 000 morts. Donc, voilà, 33 000 morts, on ne compte pas évidemment les blessés, les amputés, les personnes non trouvées en dessous des décombres. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité s'intensifient chaque jour. Israël utilise maintenant aussi la famine comme crime de guerre, et comme arme, parce que au-delà de son objectif militaire qui n'atteindront évidemment pas de détruire le Hamas, l'objectif avant tout c'est l'épuration ethnique, le génocide et le dépeuplement de Gaza. Surtout faire en sorte que l'organisation civile ne revienne pas, que l'ordre civil ne revienne pas à Gaza. Et du coup, en ce moment, ils ciblent énormément la police et l'administration civile qui reprenait un peu de la place à Gaza Nord et surtout qui a permis ces derniers jours de mieux organiser les distributions alimentaires. Très récemment, il y a eu le siège de l'hôpital Al-Shifa. Et alors, bon, parmi toutes les atrocités qui ont été commises, une extrêmement grave et qui a beaucoup tourné, c'est les témoignages de femmes médecins de l'hôpital qui ont témoigné que plusieurs femmes dans l'hôpital ont été violées devant leur mari, devant leur famille, violées collectivement, puis tuées. À Lyon, il y a des actions tous les jours, entre les manifs, les rassemblements, les conférences, les actions de terrain, les actions un peu plus directes. Le prochain appel officiel, c'est ce week-end pour la Journée de la Terre, qui est une journée extrêmement symbolique en Palestine, et ce sera samedi sur les berges du Rhône. Et c'est aussi très réjouissant de voir que la mobilisation faiblit pas. Il y avait encore beaucoup de monde à la manif cette semaine, une belle énergie, beaucoup de dynamisme. Les actions, elles, ne faiblissent pas non plus. C'est tous les jours qu'on voit fleurir des actions à Lyon, du graphe au collage, aux actions un peu plus créatives. Et ça donne l'impression d'être un peu pareil partout à l'international.
C'était donc un reportage par un membre du collectif Palestine 69. Et maintenant, avant de passer au national, on vous fait écouter une musique. Ça sera The Roots, I Will Not Apologize.
I will not apologize. Let me show you how I get it. I don't got it, but I bet it. I don't worry, I don't sweat it. You can bitch, you can dead it. You can take it, then I fed it. Nothing sweet, diabetic, big dog, can't pet it. Heck of L, then I wet it. Then I feel it till it's pregnant.
Just a hot bag.
Face it, everybody got a favorite. I embrace it like I dated, but my grandma think I chase it.
Like, oh yeah.
I told her that a baby moving slower, cause the world is on his shoulder. Then I woke up out the coma
and got right back
at it with a little black magic. Lay you down, craftmatic. Then I'm going black magic. You don't wanna gamble with the devil, especially when I'm chewy blue. He's got me on another level, cause my teacher think I'm slow, but my mama think I'm special. But even she know, coming back like an echo.
I will not apologize. I will not apologize. I will not apologize. I will not apologize. For all of my people who understand and truly recognize, some won't get it, and for that I won't apologize. I will not apologize. I will not apologize. I will not apologize. I will not apologize. For all of my people who understand and truly recognize, some won't get it, and for that I won't apologize.
All the statements I'm about to make, I will not apologize. Niggas talk a lot of shit, really need to stop the lies. Jewels running, cars running, homie, that ain't authentic. Acting tough on TV, but to me you seem a little timid. Don't blame the nigga, blame America. It's all business. Acting like a monkey is the only way to sell tickets. Shit, I can dig it. Niggas got some silly digits. Wake is buying this a riot. We'll be talking about heaven.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu. Vous écoutez le Canu Info du lundi 25 mars. Et on passe tout de suite à l'actualité nationale. Nationale. Et on parle d'une sombre histoire de keuf du côté de Paris.
Local. Oui, c'est d'abord d'une condamnation dont on va parler tout de suite. C'était jeudi dernier à Bobigny. Une condamnation pour 6 mois de prison, 5000 euros d'amende et interdiction définitive d'exercer dans la police. Et pourtant, cette condamnation illustre de la quasi-toute puissance que l'on donne à la police. Alors la personne qui en fait l'objet est un policier de 50 ans qui a fait une longue carrière en passant par la BAC et la brave M qu'on ne connaît que trop bien pour son goût pour la matraque. Dans cette longue carrière, c'est au moins la quatrième fois qu'il est poursuivi pour des faits de violence. Pour l'une, l'affaire a été classée, mais dans bien deux cas, en 2015 et 2017, il avait été déjà reconnu coupable de violence aggravée ayant entraîné un ITT supérieur à 8 jours. Et on le sait bien, pour chaque plainte à l'encontre d'un membre des forces de l'ordre qui va jusqu'au tribunal, c'est peut-être 20 ou 30 qui restent inconnus, manquant de preuves, de possibilité d'identifier le flic, de manque de confiance dans la justice ou d'affaires qui ne sortent pas du tiroir où elles ont été rangées. Sa longue carrière s'achève donc cette année pour avoir cassé les dents d'un jeune et en avoir blessé un autre à l'œil qui voulait défendre son ami en train de se faire tabasser. Mais vous l'aurez compris, on imagine aisément que bien d'autres se sont trouvés victimes de cette ordure, dont des extraits des publications sur les réseaux sociaux ont été cités lors du procès. Nostalgie de l'Algérie française, royaliste, il annonce fièrement avoir cassé une matraque en manifestation, parle de ses interventions comme de carnage comme il les aime, entre autres choses effrayantes. Évidemment, ses collègues ont tous témoigné en sa faveur, arguant qu'aucun coup n'avait été donné. Et évidemment, les versions divergeaient. Les jeunes s'étaient soit blessés avant, soit peut-être après, voire eux-mêmes. Bref, encore un cas de policier mentant sous serment, ça en devient lassant et surtout on ne comprend pas que la parole d'un flic vaille encore et toujours plus que celle d'une personne en civil devant un tribunal. Car c'est bien ce fait qui conduit au sentiment de toute puissance chez les forces de l'ordre, on les croit d'abord eux. Et pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver d'autres exemples puisque le même jour, à Paris, un autre policier est condamné pour agression sexuelle sur une collègue. 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction d'exercer. Est-ce que cette fois, ce serait la preuve qu'il n'y a pas d'impunité dans la police ? Non, pas vraiment, car cela fait plusieurs années que plusieurs victimes s'étaient plaintes de son comportement et sa direction l'avait protégé et avait enterré les plaintes. Celle qui a réussi à aller jusqu'au tribunal n'est pas venue, par peur et petit florilège de ce qu'elle a subi. Il lui a fouetté les fesses avec des écouteurs, il lui a demandé de montrer son soutien-gorge, il lui a offert un plug anal, il a ouvert son pantalon dans son bureau pour frotter sa gourde, donc la gourde de sa collègue, sur son caleçon. Et toujours à Paris, même jour, le procès de 2 autres flics qui, ivres, un soir, ont tabassé un jeune de 20 ans qui rentrait chez lui pour le plaisir, le traînant par les cheveux, le rouant de coups de poing alors qu'il subit une clé d'étranglement. Finissons ce sujet avec les mots que l'un d'eux adressa à un passant témoin de la scène qui a voulu intervenir. « Je suis flic, il ne peut rien m'arriver ».
Et visiblement, les flics de Sainte-Soline aussi sont bien protégés. On vous parle tout de suite de ce triste anniversaire.
3200 gendarmes, 2,5
grenades explosives par minute, 260 grenades GM2L qui sont à la fois lacrymogènes et assourdissantes, soit 40 par minute, 4800 tirs de grenades lacrymogènes dans la journée selon les chiffres officiels. C'était à Sainte-Soline il y a un an, le 25 mars 2023, lorsque Darmanin tendait un piège macabre aux manifestants et manifestantes venus contester l'accaparement de l'eau par quelques agro-industriels. Dans un communiqué, les soulèvements de la terre condamnaient le soir même de la manifestation, je cite, « un dispositif militaire pensé pour produire un grand nombre de blessés et ne pas exclure de tuer, tuer pour protéger un symbole, celui de leur autorité envers et contre toute raison ». Les organisateurs évoquaient rapidement un bilan provisoire et partiel de 200 blessés, dont 40 blessures dites délabrantes parmi les manifestants, pardon, des éco-terroristes selon la terminologie du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement s'est appliqué à criminaliser les victimes de violences et à se dédouaner de la violence qu'il avait minutieusement orchestrée, comme en témoignent par exemple des articles publiés avant la manif dans le journal La Voix du Gendarme, qui insistait, je cite, « sur la nécessité de saturer de gaz lacrymogène de vastes compartiments pour fixer l'adversaire dans la profondeur ». Une terminologie très guerrière donc. Un documentaire coproduit par Off Investigation et Reporter, intitulé Sainte-Soline Autopsie d'un carnage, est diffusé depuis vendredi, offre un contre-récit et donne la parole aux victimes, notamment les blessés les plus graves pour lesquels une enquête a été ouverte. Alors que, on a seulement 4 enquêtes ouvertes, alors que selon la Cour européenne, on le rappelle, les parquets devraient s'auto-saisir en cas de suspicion de violence policière. On en est donc bien loin. Mais le pire n'est pas là, c'est que les enquêtes, donc initialement ouvertes au parquet de Niort, ont été transférées au parquet de Rennes auprès du procureur Astruc, et c'est ce même procureur qui avait déjà classé sans suite la blessure d'un homme qui avait perdu la main à cause d'une grenade lors d'une rave party. Aujourd'hui, les enquêtes pour Sainte-Soline sont toujours en cours et aucun gendarme, qu'il soit tireur ou responsable du dispositif, n'a été mis en cause par la justice. Bon, après, il faut dire que c'est l'IGGN, donc l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui mène l'enquête, et c'est la même IGGN qui avait jugé que les tirs de LBD effectués par des gendarmes depuis les quads lors de cette manifestation relevaient de, je cite, « la légitime défense ». Il n'y a donc aucun représentant de l'État, qu'il soit simple flic ou ministre, de condamner ou d'inquiéter par la justice. En revanche, la justice a fait preuve d'une intense célérité pour les manifestants et les manifestantes, avec 14 condamnations pour des militants des soulèvements de la terre, du collectif Bassine Non Merci, de la CGT, de la Confédération Paysanne et de Solidaire. Les peines prononcées par le tribunal comprennent des interdictions de séjour dans les Deux-Sèvres et jusqu'à un an de prison avec sursis. La criminalisation des manifestants de Sainte-Soline a aussi permis au gouvernement d'engager la dissolution administrative des soulèvements de la terre, qui a finalement été annulée en novembre dernier, par le Conseil d'État. Et c'est bien le seul point positif de l'affaire qui a permis l'émergence de centaines de comités de soutien dans toute la France.
Et toujours au national, on parle tout de suite des politiques austéritaires.
Alors depuis plusieurs jours, voire même semaines, Bruno Le Maire est en roue libre totale dans des revues aussi sympatoches que Le Capital ou le JDD, qui appartient maintenant à un certain Vincent Bolloré. Il a affirmé, je cite, que « notre système social coûte trop cher, qu'il faut en finir avec l'État-providence, qu'il faut reprendre la maîtrise d'un système devenu incontrôlable, et la pire peut-être, c'est la gratuité de tout pour tous ». Tout le temps, c'est intenable. Bon, du grand n'importe quoi, on en convient. Alors on lui rappelle, même s'il ne nous écoute pas, que rien n'est gratuit.
Qui sait ?
J'ai quand même un petit doute. Mais bon, c'est vrai, on ne sait jamais. Que rien n'est gratuit, les retraites, la sécurité sociale, le chômage, les aides sociales, etc. Tout ça, c'est du salaire indirect. C'est issu de nos cotisations sociales ou de la CSG, ce qui correspond à la contribution sociale généralisée, ce qui revient à peu près au même que les cotisations sociales, quoi qu'on en dise. Et que, de notre côté, tout baisse, les chômages, les retraites, etc., quand l'inflation, elle, explose. Alors, ce qui baisse aussi, et depuis bien longtemps, ce sont les cotisations patronales offertes par les gouvernements successifs quand les profits de ces mêmes entreprises explosent. Alors, par exemple, les profits du CAC 40 s'élèvent à 146 milliards d'euros de bénéfices nets pour l'année 2023, et on est parti pour un nouveau record en 2024. Alors, en parallèle donc Le maire et consorts sont déjà passés à l'offensive contre notre classe. Le 22 février, par décret, tout simple, tout tranquille, 10 milliards d'euros ont été directement enlevés à plusieurs ministères. L'écologie et l'éducation sont les plus grandes sacrifiées. 700 millions d'euros pour l'éducation nationale avec son lot de suppression de postes et toutes ses conséquences, on y reviendra tout à l'heure pendant l'interview. 2 milliards d'euros pour l'écologie, 1,2 milliard d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche, dont 125 millions pour la vie étudiante. C'est vrai que les étudiants et les étudiantes sont plutôt blindés de thunes ces dernières années. 330 millions d'euros pour l'aide au logement. Il n'y a jamais eu autant de personnes à la rue qu'en 2024. Et ça, c'est selon la Fondation l'Abbé Pierre. On est à 4,2 millions de personnes dans la rue ou mal logées. 200 millions d'euros en moins pour la culture. Je vous passe les détails du reste, mais les cibles sont claires. Alors, en parallèle, nous, ce qu'on voit, c'est que la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, a prévu 15 milliards d'euros d'ici à 2027, en partant de 2023. Donc, sur 4 ans, 15 milliards d'euros.
Mais c'est pas l'austérité ?
Incroyable. Alors attends, pire, imagine. L'armée, elle, est assurée de 413 milliards d'euros d'ici à 2030, avec un budget qui va passer de 49,3 milliards d'euros en 2023 à 69 milliards d'euros en 2030. Tout ça, probablement, pour nous préparer une bonne petite guerre. On a bien vu Macron ces derniers temps. Cela raclait un petit peu autour de ça. Bruno Le Maire a déjà annoncé 20 milliards d'euros d'économies l'année prochaine, donc pour l'année 2025, soit le double de cette année. Et la Cour des comptes, qui est généralement suivie par nos ministères néolibéraux, a, elle, annoncé le 11 mars qu'il faudrait atteindre 50 milliards d'euros d'économies pour garder le cap de la hausse du déficit public à 3%. Déficit, on le rappelle, qui est organisé de longue date par les banques et les capitalistes au pouvoir. Alors ici, on n'est pas dupes, et personne n'est dupe d'ailleurs. On sait que de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat, mais aussi dans les caisses de l'État. À nous d'aller le chercher.
Et on termine tout de suite ce point national avec le rejet du CETA par le Sénat.
Enfin, une petite défaite pour ce gouvernement. C'était jeudi, 21 mars, jeudi dernier, le Sénat a donc rejeté le CETA. Vous savez, c'est ce fameux accord de libre-échange avec le Canada. Le Sénat, donc, qui n'est pourtant pas connu pour être l'incarnation de l'anti-autoritarisme, dénonce à la fois le contenu du texte et le déni de démocratie du pouvoir macroniste qui a refusé pendant 5 ans d'examiner le Sénat faute de majorité à la Chambre haute. Après 5 années donc à refuser d'inscrire le texte du CETA à l'ordre du jour au Sénat par crainte d'être mis en minorité, le gouvernement a essuyé une défaite cinglante. Ça faisait quand même 7 ans que l'accord du CETA est appliqué en France partiellement à coup de force sans aucune ratification officielle. C'est ça la démocratie à la Macron. On peut se contenter d'une petite validation à l'Assemblée nationale sans passer par la case Sénat pratique. Pour rappel, le CETA c'est quand même un gros missile capitaliste. L'accord prévoit notamment la suppression des droits de douane sur 98% des produits échangés entre l'Europe et le Canada. Il prévoit aussi la réduction des réglementations et un tribunal spécial pour les entreprises européennes qui investissent au Canada et vice-versa. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien maintenant, le texte va retourner en seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui pourrait aussi voter contre, qui sait, le camp présidentiel ne disposant plus de la majorité absolue. Mais en réalité, calmons-nous, au-delà du symbole, ce vote ne remet pas en cause l'application du traité du libre-échange. Pour cela, il faudra un peu plus de combativité.
Et en attendant, on écoute tout de suite, et avant de passer à notre dossier de la semaine, on écoute tout de suite Finimondo de Mischetta.
Che fini mondo per un capello biondo che stava su Gilet. Sarà volato, ma com'è strano il fatto proprio su di me.
Tranquilla, non dormire.
San Giro, alla fine del mondo sotto il vestito. Cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro? Di giorno il giro delle sette chiese, di notte poi fino alle sette al club. Il brutto giro ma del bel paese, Greg non dorme da due giorni fa. E il mio biondo è inconfondibile, forte, forte, forte come la Carrà. Non parti, questo è un crimine, un po' trap, un po' techno, un po' cyberpunk. Non lo so cosa fa questa musica qua, dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua, cosa fa?
Che fini che stava su di me. Sarà volato, ma come strano il fatto proprio su di me. Che fini mondo per capello biondo che stava su di me. Sarà
lo sai quanto costa un cifro?
Un milione.
Airbag si attivano perché mi urti. Bevo drink storti coi poteri forti. La serata è calda come Jerry Scotti. Colazione all'after con i biscotti.
Non lo so cosa fa questa musica qua.
Dimmi cosa fa questa musica fra.
Non lo so cosa fa questa musica qua. Come fa?
Che fini mondo per un capello biondo che stava su G. Sarà volato ma come strano il fatto proprio su. Fini mondo per capello biondo che stava su di te. Sarà volato ma come strano il fatto proprio su di te. Che fini mondo.
Dopo un after in Riviera, mare mosso fino a sera. Dopperia di quella vera, se ci fossi anche tu qui con me.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, il est 19h31, nous sommes le lundi 25 mars, vous écoutez le Canu Info et on passe tout de suite à notre dossier de la semaine avec un focus sur l'éducation qui commencera par une interview d'un camarade lyonnais.
Oui, avant d'écouter un reportage sur le mouvement dans le 93, hein, puisqu'on en a quand même pas mal entendu parler, hein, ce département est pas mal sinistré, on va d'abord passer un petit peu sur ce qui se passe à Lyon, mais aussi à l'échelle nationale, puisque les raisons de la colère sont multiples dans l'éducation nationale, et ce n'est pas que parce que Amélie Oudéa-Castéra est passée par là. Alors, on accueille aujourd'hui donc Bastien, qui est prof dans un collège de Villeurbanne, et qui est accessoirement au syndicat Sud Éducation. Et alors déjà, merci à toi d'être là.
Merci. Bonjour.
Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de la colère? On va y revenir. Il y a eu une mobilisation le 19 mars, la semaine dernière. On verra un petit peu quelles sont les perspectives. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu une mobilisation assez importante, relativement importante, en tout cas, mardi dernier et dans les semaines qui ont précédé, dans les semaines à venir?
Donc oui, les semaines qui ont précédé, faut remonter quelques mois. Il y a quelques mois, quand Gabriel Attal fait un petit passage éclair au ministère de l'Éducation, il a proposé une réforme, une nouvelle réforme qu'il a appelée le choc des savoirs, en mettant des groupes de niveau, en proposant d'installer des groupes de niveau en français et en mathématiques. Pour accompagner soi-disant les élèves les plus en difficulté et redresser aussi les mauvais résultats qu'il y a
au brevet des collèges.
Non, pas brevet, au PISA.
D'accord.
Aux études.
Alors comment ça va se concrétiser ces histoires de groupes de
pour faire les classements internationaux.
Voilà, c'est ça, PISA, oui.
Comment ça va se concrétiser, cette mise en place des groupes de niveau, et en quoi c'est scandaleux?
Alors, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, les groupes de niveau, ça a été démontré scientifiquement que c'est pas forcément... c'est pas efficace. C'est pas efficace. Ça a été montré aussi en psychologie, en dehors du champ de l'éducation, ce qui s'appelle aussi l'effet d'étiquetage, ou l'effet Pygmalion, ou l'effet Golem. Pas la même chose, hein, c'est que si on sait déjà, si on a un a priori sur le niveau des élèves ou des animaux dont on s'occupe, on va obtenir des moins bons résultats. Ce qui s'appelle, oui, l'effet d'étiquetage. Ça a été montré en psychologie, vraiment, il y a déjà un moment, rien à voir avec le monde de l'éducation. Et appliqué à l'éducation, les études ont montré que il y avait aucun effet bénéfique sur les capacités d'apprentissage. Plutôt même le contraire a été montré. Seul petit bémol qu'on pourrait y mettre, c'est que de façon ponctuelle, sur des objectifs vraiment précis, ça peut être pas mal. Voilà. Donc après les conséquences que ça a eu très directement sur sur les dotations hein, chaque année chaque mois de janvier il y a le rectorat qui impose un quota d'heures pour payer les profs, en fait, qui fait la répartition, le nombre de profs, le nombre d'heures de cours qu'il y aura dans chaque établissement de façon hebdomadaire. Et tout le monde a été surpris, oui et non, mais l'éducation prioritaire pour les élèves les plus défavorisés, hein, où normalement les bahuts d'éducation prioritaire devraient recevoir un petit peu plus de moyens que les bahuts hors ce classement, hein, se sont fait dépouiller, dans l'Académie de Lyon, dans la métropole de Lyon et aussi dans le département du Rhône. Il y a eu à peu près au moins 20 heures en moyenne des bahuts d'éducation prioritaire qui ont été retirés.
Et
retirés.
Ça, vous le savez depuis janvier ? Ça vous était annoncé comme ça ?
Moi, je ne suis pas dans un collège qui est classé REP ou REP+, hein, dans le réseau d'éducation prioritaire, en tout cas pas à ce niveau-là. Donc en fait, clairement, il y a un truc pour faire très 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 schématique, ça a été enlever aux pauvres pour donner aux autres, quoi. Pour en fait retirer les moyens alloués à ces établissements pour permettre la mise en place de tous ces groupes de niveau en 6e, en 5e à la rentrée prochaine. Parce que ça demande des moyens, l'idée c'est de mettre en plus petit effectif en fait les groupes. Maintenant ils diront le langage administratif qui est passé au bulletin officiel, c'est-à-dire dans les programmes, et qui a été vraiment et qui se passe pas des circulaires, c'est vraiment maintenant dans les textes réglementaires, c'est les groupes de besoin. Donc les élèves à plus gros besoin, on va dire ça comme ça, hein, ils devraient être l'idée de base, c'est qu'ils soient moins nombreux. Mais bon, force est de constater qu'il y a plein d'obstacles à cette mise en place et que tout ne va pas pouvoir se faire comme ça.
Alors là, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi ces politiques austéritaires qui vont impacter directement l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Tu peux répéter la question?
Les politiques d'austérité, les 700 millions d'euros en moins pour l'éducation nationale, collège, lycée, primaire, tout confondu, et pour l'enseignement supérieur et la recherche, 1,2 milliard. Est-ce que vous avez déjà entendu un peu parler des conséquences au niveau des suppressions de postes à venir peut-être? Est-ce que du coup tout ça c'est à mettre un petit peu en lien avec la réforme des groupes de niveau?
En fait, je vois pas, je me suis pas précisément intéressé là-dessus, parce que dans tous les cas, les dotations données, la plupart du temps, ne permettent même pas de mettre en moyen les groupes de haut niveau comme ils devraient être. Hein. C'est un peu ce que je racontais. Hein. Et que souvent, en fait, pour pouvoir les mettre en place, il y a eu un petit peu plus. Il y a pas mal de bahuts hors REP cette fois. Ben oui, ils se sont fait dépouiller pour que les autres, ils en aient un peu plus, notamment les bahuts bourgeois, qui ont des dotations supplémentaires. Donc on enlève aux pauvres pour clairement donner aux riches, là c'est d'une évidence criante. Ça suffit pas, donc en fait ça va amener les rares bahuts où ils ont, où il existe encore des groupes, notamment en sciences ou en langue, des classes dédoublées, on va supprimer ça aussi, hein, pour pouvoir mettre en place vraiment ce qui est rentré dans les textes, c'est-à-dire ces groupes de niveau. Voilà. Après, ouais, sur les 700 millions supprimés, ça va avec la logique globale de toujours dégrader les conditions de travail et mettre en difficulté, en péril chaque année, les pseudo petits acquis qu'il y a, qui en fait sont pas tant des acquis, qui sont juste des cadres de travail qui permettent de faire réellement le travail, hein, comme je le disais, les groupes de niveau, quoi. Les dédoublements de classe en sciences ou en langue.
Alors bon, donc on comprend, la logique c'est toujours un peu la même, hein, renforcer les inégalités entre établissements, diminuer les dotations budgétaires, les dotations horaires pour certains établissements, et puis il y a aussi quelque chose là qui a été un peu raconté pour le 19 mars dans cette grève, c'est la généralisation du SNU et de l'uniforme à l'école, a priori pour 2026, donc ça va venir assez vite tout ça, donc un espèce de renforcement autoritaire de la gestion des élèves. Est-ce que vous en avez un petit peu parlé aussi, puisqu'il y a eu une assemblée générale la semaine dernière de tout ça. Est-ce que c'est dans les revendications ?
C'est complètement dans les revendications. Le SNU, plus que peut-être un peu plus que l'uniforme, parce que le SNU, ça fait longtemps quand même que ça se met en place doucement, avec beaucoup de résistance, beaucoup de contraintes. Mais ça date pas d'hier, hein, ça fait quand même quelques années que c'est en place. Oui, il y a le collectif non SNU, hein, qui est un collectif un peu intersyndical, mêlé, qui mêle les différents syndicats, on va dire plutôt non réformistes, hein, sud, peut-être quelques camarades du SNES.
Oui, il y a des syndicats de lycéens aussi, je vois sur le tract, le MNL par exemple, oui. L'USL, etc.
Donc, oui, merci d'en parler, oui, c'est vrai.
Voilà, parce que les lycéens, c'est quand même un peu les premiers qui vont être impactés par le SNU, et c'est vrai qu'on les a vus aussi un peu dans les manifs dernièrement sortir, et parfois même bloquer des établissements en France, mais aussi à Lyon. Ils ont clairement leur mot à dire. Alors justement, pour revenir un petit peu sur la mobilisation la plus récente, celle du 19 mars, il y a eu une assemblée générale à la Bourse du Travail en ce qui concerne Lyon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que ça a été le plus mobilisé, et quelles sont les perspectives? On sait aussi que dans certaines villes, il y a eu des fortes mobilisations, y compris encore ce week-end, comme à Nantes, dans le 93, on y reviendra. Bon, Lyon, qu'est-ce que ça raconte un peu au niveau de cette mobilisation? Et puis à l'échelle nationale aussi, qu'est-ce que tu en sais un peu?
Ben alors, dans les perspectives, Lyon, il y a un appel mardi prochain, mais ça c'est un appel national à la grève. Directement, là, cette semaine, c'est un petit peu retombé. On espère que mardi prochain, ça remettra peut-être un petit peu une dynamique. Hein. En tout cas, la volonté, surtout dans les collèges d'éducation prioritaire, ça lâche pas l'affaire, parce que les conditions, elles ont été terriblement dégradées. Par rapport au tri social qui nous a imposé, ça écœure profondément beaucoup de collègues. Pour faire un petit retour en arrière sur l'historique de la mobilisation, hein, c'est vraiment là pour le coup sur le choc des savoirs, cette réforme, hein, qui touche vraiment tous les bahuts. C'est vraiment l'éducation prioritaire, des collègues d'éducation prioritaire de bahuts qui traditionnellement ne se mobilisent pas tant finalement, qui ont été vraiment le fer de lance. Hein. Ça a commencé par un rassemblement à l'appel d'un bahut ou d'autres bahuts, des collèges, hein, quand j'entends essentiellement des collèges d'éducation prioritaire, on rejoint un rassemblement devant les rectorats, et puis s'en est suivi une des premières journées de mobilisation, une matinée, on a investi les locaux de l'inspection académique qui est juste à côté du rectorat, à au moins 100 personnes, donc ça partait plutôt bien. Hein, ça partait plutôt bien, ça a été suivi, il y a eu des opérations collège mort, et les familles ont carrément soutenu dans pas mal de bahuts sur des journées où on demandait à déscolariser les enfants, à pas les envoyer, pour les mettre dans la complicité de la grève et de la lutte. Donc ça a été carrément suivi. Il y a un collège à Rieux, il me semble qu'il y a eu 6 élèves pour le collège. Le collège, je ne sais pas, mais il me semble que ça doit être quelque chose entre 500 et 800 élèves. Je ne sais pas précisément ce collège-là. Mais 6 élèves, ça veut dire que ça a été une écrasante majorité de familles qui ont soutenu, le mouvement, et qui refusent vraiment de façon absolue cette réforme de choc des savoirs, le tri social de nos élèves, quoi.
Ok, donc on arrive un peu sur la fin de l'interview. Donc la prochaine date à Lyon, et qui est une date nationale,
c'est national, c'est dans l'éduc.
C'est dans l'éduc.
Hein. Mardi dernier, c'était toute la fonction publique. Donc la revendication principale, c'était les salaires. C'est un autre sujet, mais ça n'a pas tant mobilisé finalement dans l'éduc que ça aurait dû. Hein. Parce que, mais bon,
donc là, c'est l'intersyndicale de l'éducation nationale qui appelle à une grève mardi prochain.
Mardi prochain, ouais.
Eh ben dis donc, c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'il y aura une manif d'organiser?
Il y aura une manif. Je sais pas si le parcours a été déjà déposé. Ouais.
On vous redira lundi prochain les détails de cette journée-là et les rendez-vous. Merci beaucoup pour nous avoir donné toutes ces infos.
Merci.
Et puis on va enchaîner.
On continue tout de suite sur les mobilisations dans l'éducation nationale avec un petit reportage dans le 9-3. On en a parlé déjà un peu ici. Les enseignants du 9-3 du 93, je vois qu'on se moque de
non, pas
dans
du
le
tout.
Studio. Les enseignants du 93 entament leur cinquième semaine de mobilisation et on a une envoyée spéciale qui nous a fait un petit reportage en direct de la région parisienne et on l'écoute tout de suite.
Mars 2024, premier jour du printemps, qui est une bonne saison pour faire pousser des luttes. On est dans un lycée qui a été construit dans les années 1990, dans une des communes emblématiques des quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis. Il fait grand soleil et des dizaines d'élèves se pressent à la sortie de 10h15 pour partir à pied ou pour attraper un bus. Il y a environ 1200 élèves dans ce lycée, répartis entre des filières générales, technologiques et professionnelles, et des dizaines de profs et de personnels. Et ici, comme dans des dizaines d'établissements du département depuis plusieurs semaines, beaucoup se mobilisent pour revendiquer leur droit à enseigner et à apprendre dans de meilleures conditions. J'ai rendez-vous dehors avec Sid, qui est prof d'histoire géo dans ce lycée depuis quelques années. Alors que je lui demande de nous décrire un peu son lycée, le sujet du manque de moyens surgit très rapidement dans la conversation.
Pour décrire un petit peu l'état du lycée, on a pas mal de fenêtres qui se ferment pas, on a plein de problèmes de bâti déjà, et chaque année, au niveau des cours, on doit renégocier l'utilisation de la DHG. La DHG, c'est la dotation horaire globale, c'est le nombre que nous donne le rectorat pour pouvoir faire nos cours. Moi, depuis que je suis là, chaque année, le rectorat nous enlève des heures en nous disant « Vous avez déjà beaucoup plus d'heures que d'autres établissements, donc on va vous en reprendre. » Et nous, on dit « Oui, mais en fait, on a des heures et du coup, ça nous permet de faire des cours pour nos élèves. »
Et du coup, justement, à propos de la mobilisation qui est en cours, du coup, tu disais depuis le mois de février, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a commencé et qu'est-ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines ?
À la fin de l'année 2023, à partir d'octobre, je crois, il y a les syndicats de la CGT Sud et la FSU et la CNT de Seine-Saint-Denis qui ont lancé une consultation auprès de tous les établissements pour chiffrer le taux de non-remplacement, l'état du bâti, l'absence tout simplement d'assistante sociale par exemple ou d'infirmière. Et du coup, ça a donné lieu à un plan d'urgence qui a été où on a chiffré à la fois les problèmes et les besoins. Et donc après, on a voulu lancer une mobilisation. Enfin, il y a une mobilisation qui a été lancée à la rentrée de février sur le mode pas de rentrée s'il n'y a pas de moyens.
Et comment ça se traduit concrètement le manque de moyens dans ce lycée ?
Il y a l'aspect bâti qui dépend de la région et on est toujours un petit peu renvoyé à ça quand on en parle à nos autorités académiques et l'aspect moyen sur les personnels. Le gros truc dans ce lycée, c'est l'absence d'infirmières scolaires, ce qui fait que les élèves, quand ils ont des problèmes de santé ou quand il y a besoin de faire des plans d'accompagnement individualisés, c'est-à-dire des adaptations pour les élèves, ça crée un délai supplémentaire parce que c'est un proviseur qui doit gérer, etc. Plus chaque année les heures en moins, on a un dispositif qui fait qu'on a des classes à 30 élèves alors que normalement on est doté à 35. Donc ça veut dire qu'on utilise des moyens qui sont donnés pour faire ça et comme on nous retire les moyens, chaque année on est mis face à l'idée de soit on enlève des demi-groupes, soit on passe en classe à 35. Et donc sur le bâti, je le disais au début, on a beaucoup de fenêtres qui sont simplement vissées. Donc il fait déjà chaud en mars, donc à partir de mai et juin ça va être c'est très compliqué de travailler dans des salles où on peut pas ouvrir la fenêtre quoi. Les salles aux étages hauts, on a des plafonds qui sont ouverts parce que à cause d'infiltration et qui sont pas réparés ou c'est à chaque fois des petites réparations parce que les agents qui sont sur place font du mieux qu'ils peuvent, mais les gros travaux, ils peuvent pas les faire et ça demande des appels d'offres, ça met un temps fou et ils vont toujours aller au moins 10 ans, voire ils le font pas parce qu'ils attendent, je sais pas, qu'il y ait peut-être plus du tout de fenêtres pour toutes les remplacer.
Ensuite, j'ai rendez-vous avec Marjolaine, qui est elle aussi prof d'histoire géo, dans le même lycée. Elle n'a pas cours le mercredi et on se retrouve sous les bords du canal de l'Ourcq, au milieu des joggeurs et des promeneurs. Quelques heures plus tôt, une banderole a été accrochée sur la passerelle de l'hôtel de ville de Pantin. On peut y lire en rouge et noir et en grosses lettres, dans le 93, un plan d'urgence pour l'éducation. C'était une action commune des villes entre Montreuil et Aubervilliers, dont Marjolaine a eu connaissance sur un groupe de discussion entre enseignants et enseignantes du 93.
C'est devenu plus concret et plus organisé localement à partir de fin février, là, à la rentrée des vacances de février. L'idée, c'était que le 93 ne fasse pas sa rentrée et de se mettre en grève massivement à ce moment-là.
Et la grève, elle avait été suivie du coup à l'échelle du 93 et à l'échelle de ton lycée dans cette journée de rentrée après les vacances d'hiver ?
Oui, c'était une grosse journée de grève le lundi de la rentrée. Il y a eu une grosse AG de secteur, comme on dit, comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps, avec aussi des parents, aussi des élèves.
Une AG de secteur, ça veut dire quoi exactement ? Il y avait plusieurs établissements qui étaient représentés.
Ouais, on s'organise avec les établissements de la ville de Stein et aussi de Pierrefitte et de Vitelaneuse. C'est les communes les plus proches de nous.
Et cette journée de grève à la rentrée, c'était une seule journée ou bien elle a duré plusieurs jours ?
Ça a duré plusieurs jours. En gros, là, depuis que le mouvement il a commencé, à chaque fois, il y a des journées de grève massives où il y a beaucoup d'établissements qui se mettent en grève. Et c'est toujours l'intersyndicale et ce qui se décide en AG, c'est de reconduire là où c'est possible et là où les gens ont envie de le faire. La grève, elle sert aussi à ça, sert à avoir du temps pour aller parler à des gens, faire des AG, faire des actions. Ce qui fait plaisir là avec cette mobilisation pour le 93, c'est que très souvent les établissements se mobilisent chacun de leur côté. Et donc là, ça fait plaisir de voir qu'on s'organise ensemble à l'échelle du 93. Et là, la semaine dernière, il y a eu une chouette manif avec des cortèges qui partaient de différentes villes. Nous, on est partis de la Courneuve, je crois qu'il y avait un cortège qui partait de Montreuil. Et on a convergé vers la DSDEN, donc le rectorat qui est à Bobigny. C'était super l'effet de se retrouver, des cortèges qui convergent, ça donnait un sentiment de puissance qui était super.
Sur les actions prévues là dans les prochains temps, est-ce que tu sais s'il y a déjà des trucs calés, des rendez-vous ?
Il y a manif demain, donc le 21 mars, à midi pour aller vers Matignon. Il y a appel à reconduire la grève vendredi. Et ensuite, la prochaine journée, c'est mardi prochain, le 26.
Changement de décor et dernière étape de notre enquête pour comprendre ce que c'est que cette mobilisation pour un plan urgence 93. Cette fois, c'est Alicia qui a accepté de me recevoir chez elle, dans son appartement près de la Porte de Paris à Saint-Denis. Elle est prof de sciences économiques et sociales dans le même lycée que Sid et Marjolaine. Et en bonne sociologue, elle remet cette lutte dans le contexte plus large de la stigmatisation des quartiers populaires, des violences policières ou encore de la casse des services publics. On l'écoute tout de suite.
Le mouvement en ce moment, il s'inscrit vraiment à la suite d'une séquence politique médiatique qui démarre déjà presque à la suite des élections présidentielles là, de 2022, avec la montée de l'extrême droite et une stigmatisation aussi des quartiers populaires. Les violences policières aussi, que nous on voit concrètement dans le 93, et dont les premières victimes sont nos élèves et nos élèves racisés garçons. Et donc l'année dernière, en 2023, la mort de Naël, fin du mois de juin, je crois que c'était début du mois de juillet, qui nous a vraiment ébranlés. Là, il n'y a pas longtemps aussi, il y a eu un nouveau mort, c'était à la Courneuve. Donc il y a tout ça, cette rentrée aussi de septembre 2023, qui stigmatise cette fois-ci les élèves filles, en pointant du doigt l'abaya et des pseudos atteintes à la laïcité. Bref, toute cette toile de fond, quoi, à chaque fois, tout le temps la même chose, quoi, de stigmatiser les quartiers populaires et les jeunesses de ces quartiers. Et là, ce qui s'exprime de la part des professeurs, mais aussi des lycéens, des lycéennes, une fierté de nos élèves, en fait, on les aime, quoi, très, très simplement.
Pour toi, c'est quoi la place des élèves dans le mouvement en général, mais aussi dans ton lycée, dans cette mobilisation, parce que c'est elles et eux les premières concernées. Comment tu vois les choses de ce point de vue-là ?
Pour en avoir parlé avec nos élèves, c'est compliqué aussi de se mobiliser. C'était une élève qui me disait, qui reconnaissait l'importance de notre mobilisation, qui nous disait aussi qu'elle aussi, elle voudrait se mobiliser. Mais que parfois, c'était compliqué aussi de se mobiliser aux côtés de professeurs et d'une institution qui aussi, par ailleurs, les maltraite. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui se mobilisent là, et c'est pas du tout pour minimiser leur engagement, et c'est incroyable. C'est aussi des bons et des bonnes élèves, quoi, qui sont attachés à l'institution scolaire et donc qui veulent la défendre parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils s'épanouissent dans les codes scolaires. Mais il y a aussi toute une jeunesse qui s'y épanouit pas, et du coup c'est compliqué aussi de se mettre à manifester pour demander plus de profs quand c'est aussi précisément les mêmes professeurs qui violentent à travers des mauvaises notes, à travers aussi des cours qui peuvent être ennuyeux, quoi, et qui sont dans des codes scolaires où on doit rester assis du matin, de 8h du matin jusqu'à 18h du soir, et où on s'ennuie, quoi, clairement. Mais c'est aussi pour ça que nous, on veut se battre, quoi, justement, pour leur offrir des conditions de travail dignes. Et ce qui s'exprime aussi dans les manifestations, c'est donc cet attachement au territoire, parce que le territoire, c'est là où s'expriment aussi toutes les inégalités sociales et économiques. Et à chaque fois, on demande à l'école de tout résoudre, quoi. Et c'est juste impossible, à la fois évidemment par le manque de moyens qu'on nous donne, et c'est impossible aussi parce que l'école ne peut pas tout, et qu'il faut aussi que ce soit accompagné d'un investissement plus important dans tous les services publics, et aussi évidemment de réduction du chômage. Il y a aussi au-delà du 93, le Val d'Oise, donc le 95, qui est un département voisin, qui a aussi exprimé sa solidarité. Il y a des collègues qui ont occupé le rectorat de Versailles pour demander aussi plus de moyens. Il y a des villes dans le 95 comme Argenteuil, Garges-lès-Gonesse qui sont dans des situations tout à fait similaires aux nôtres. Donc je crois qu'aussi la focale du territoire, des territoires populaires, est en train d'émerger, et pour moi c'est hyper réjouissant et novateur, et c'est aussi en réponse à la maltraitance des politiques néolibérales menées par les gouvernements successifs, et là en particulier par Emmanuel Macron. Enfin, il y a tout ça là qui s'exprime, et c'est émancipateur.
Finalement, cette mobilisation, ce n'est pas seulement une lutte de l'éducation, mais aussi une lutte pour tout un modèle de société. J'espère que ces quelques minutes passées en compagnie de ces élèves et professeurs mobilisés vous auront permis de comprendre un peu mieux le sens de leur combat et vous auront donné envie de les rejoindre en manifestation.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h57. Vous venez d'écouter un petit reportage sur la mobilisation des enseignants du 93. Et on passe tout de suite à notre traditionnel agenda, qui cette semaine sera occupé principalement par la semaine du feu. Pour information, donc la semaine du feu, c'est une mobilisation contre l'expulsion de l'espace communal de la Guillotière. Pour rappel, le CG, c'est un squat qui a été ouvert en décembre 2019 dans le quartier de la Guillotière pour héberger des personnes exilées, et aussi proposer un lieu d'activité et d'élaboration politique dans le quartier de la Guillotière. Donc c'est un lieu qui existe depuis bientôt 5 années et qui est menacé d'expulsion à la fin de la trêve hivernale le 31 mars. Donc le CG et l'annexe, qui sont deux bâtiments côte à côte et qui fonctionnent ensemble. Dans ce cadre-là, les personnes mobilisées de l'ECG proposent toute une semaine d'activités, de mobilisation pour essayer d'empêcher l'expulsion. On écoute tout de suite le petit jingle qui propose pour cette semaine du feu.
Yeah 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 Bienvenue à la Guillotière,
espace communal.
Allô, allô. Ici, on est à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière.
Nous occupons cet espace illégalement.
Deux bâtiments qui sont réquisitionnés.
C'est un lieu d'entraide et de solidarité sur le quartier.
La question de l'entraide, elle est fondamentale dans nos luttes politiques contre la gentrification.
C'est des activités autogérées et tournées vers le quartier.
L'idée, c'était de créer des espaces où les gens puissent venir.
Là, on est dans le salon de coiffure de l'espace communal.
Des permanences juridiques pour essayer d'avancer sur tout ce qui est demande d'asile.
Des cours de français qui ont lieu.
Une chorale féministe en mixité choisie.
Comme la distribution de la nourriture à les voisins.
De la boxe en mixité ou pas.
C'est la salle de musique.
On a un cybercafé.
C'est la romantique.
C'est une idée de politique, quoi.
C'est vivant.
Ça va, quoi.
Bah en gros, on est expulsable à la fin de la trêve hivernale.
31 mars 2024.
À partir du 30 mars, l'espace communal de la Guillotière et son annexe sont expulsables. Alors, on résiste. Rendez-vous à l'ECG annexe au 45 rue Béchevelin à Lyon. Venez défendre le lieu avec nous en participant à la semaine de la résistance. Concerts, manifs, projections, cantine, box, chant. Promis, on ne va pas s'ennuyer.
Donc un bien beau jingle pour annoncer cette semaine de mobilisation. Ça commence dès le 27 mars, donc ce mercredi, avec une répétition ouverte de la chorale des Branleureuses. Le jeudi 28 de 14h à 16h, rendez-vous pour décorer l'espace de fresques. Donc toutes les âmes créatives peuvent venir décorer le lieu. Le vendredi 29, la